Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'Ombre d'un doute, le podcast de Criticat. Je suis accompagné de Josué Morel. Salut Josué.
Salut Marin.
Et on va aujourd'hui parler de deux gros morceaux. Le nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure Day, et le nouveau film d'Alexandre Kobéridze, Dry Leaf, qui lui sort le 8 juillet. Donc ce podcast sortira probablement un peu avant la sortie de Dry Leaf, mais voilà, en espérant que ça vous donne envie de le voir, puisque nous en dirons plutôt du bien, mais vous verrez ça plus tard. On va commencer avec Disclosure Day, donc de Steven Spielberg. Voilà, moi j'ai pris pour tradition de ne pas trop faire la partie obligatoire où je résume les pitchs des films, parce que je pars du principe que la plupart des gens qui nous écoutent les ont vus. Mais enfin voilà, Disclosure Day, le retour de Spielberg
du coup,
aux aliens.
Peut-être le faire un petit peu pour Dry Leaf.
Pour Dry Leaf, je le ferai un peu. Voilà, je me dis, les gens écoutent un podcast sur Spielberg de Criticat, à mon avis ils ont vu le film. Donc voilà, simplement le retour de Spielberg aux aliens, on peut dire ça. Josué, c'est toi qui as écrit l'article de Criticat sur le film, qui est un long article que je trouve vraiment passionnant. Voilà, je te le dis comme
merci,
je le pense. Ça m'a permis de rentrer vraiment dans le cœur du film, quoi. Juste après l'avoir vu, c'était assez passionnant, parce que c'est vrai qu'en l'ayant vu, j'étais un peu déboussolé, on va dire. Maintenant, je l'ai revu, toi tu l'as revu même deux fois, c'est toi qui gagne à ce petit jeu. On a cinq visionnages à nous deux de Disclosure Day. Et donc toi, voilà, vraiment qui ne t'en cache pas, est un grand Spielbergien, qu'as-tu pensé de Disclosure Day ?
Oui, alors c'est intéressant que tu commences par là, parce que d'une certaine façon, j'aurais presque envie de partir d'un tout autre point que mon texte, puisque le film me frappe d'abord par sa densité, alors aussi par sa bizarrerie. Je pense qu'il faut commencer par là, de dire que peut-être, déjà le film me divise dans sa sortie, je suis même d'ailleurs très étonné, c'est son meilleur débarrage au box-office depuis un long moment, mais c'est un film qui, à mon avis, se donne avec moins d'évidence et moins forcément accessible que West Side Story ou The Fabelmans, qui avaient été des films très bien accueillis. Là, c'est un film qui est un peu plus bizarre et qui peut-être tord aussi le coup à cette idée d'un retour de Steven Spielberg à des motifs familiers, d'un retour à la science-fiction, d'un retour même potentiellement au film d'action. Alors, il y a des scènes spectaculaires dans le film, mais elles sont quand même assez peu nombreuses à l'échelle du récit. Et puis, il y aurait même, d'une certaine façon, une certaine radicalité un peu souterraine dans la façon dont le film va jouer sur des effets de montage. Alors, moi, je pense notamment à deux scènes que je trouve géniales, qui est une scène de possession, communion télépathique qui ne joue que sur des effets de montage et de raccord, ou une scène aussi où on essaie de rendre une maison invisible pour s'enfuir d'un hangar, mais qui vraiment reviennent à une forme d'essence de la mise en scène et qui joue sur très très peu d'effets pyrotechniques ou sensationnels. C'est très compliqué de résumer un peu le film, disons, pour dire les choses un peu schématiquement, mais à mon avis ça résume aussi quelque chose de sa bizarrerie. C'est que le film organise quelque chose comme les noces d'un film d'espionnage et du portrait d'un messie, quoi. Et de la même façon, le film organise de son premier à son dernier plan l'idée d'une cassure, de casser quelque part ce qui fait obstacle à l'accès à la vérité, et en même temps une cassure qui serait plus métaphorique sur l'idée même de la possibilité de l'avènement du Christ, pour dire les choses de manière un peu... Alors c'est un peu bizarre, dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, mais en fait je pense que le film suit une trajectoire qui est très cohérente, alors avec peut-être une limite, et d'ailleurs c'est intéressant parce que de mémoire c'est une limite que tu avais exprimée dans le ciné-club qu'on avait fait sur 1941, l'idée que c'est un film peut-être de mise en place, et que quelque part le film n'est jamais plus fort et plus beau que dans son dernier tour, que moi je trouve extraordinaire, enfin, c'est même peut-être l'un des plus beaux Spielberg, les 45 dernières minutes, mais qui a en tout cas une logique voisine qui serait que voilà, le film installe un certain nombre de trajectoires, de choses, et il le fait en suivant un cap. Alors bon, notamment cette idée de l'accès à la vérité, ça va passer par tout un jeu sur les fenêtres, sur les vitres, mais dès le premier plan, puisque le premier plan c'est un catcheur qui fracasse quelque part la caméra, et cette idée de cassure du verre, c'est quelque chose qui en fait est omniprésent dans le film, qui revient, ne serait-ce que dans les scènes d'action, dans des détails. Voilà, pour donner un exemple très simple, le personnage de Colin Firth, par exemple, qui joue l'antagoniste, apparaît de dos, derrière, surcadré par la fenêtre d'une voiture. Et à l'inverse, son pendant, qui est le personnage
au tout début du film, là,
au tout début du film,
un travelling très très voyant.
Voilà, je parle vraiment de l'apparition du personnage, quoi. Et son envers dans le récit, qui est le personnage de Colman Domingo, qui joue un personnage qui est aussi un avatar de Spielberg. On on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Lui, au contraire, apparaît de face et derrière lui, on installe une vide dans une maison qui va jouer un rôle. Voilà, encore cette idée de l'installation. Et ça, c'est quelque chose d'assez beau. Alors, notamment sur le vrai personnage central du film, qui est en fait la figure d'Emily Blunt, qui est un personnage assez étonnant de Miss Météo, qui est soudain frappé par un don des langues. Alors ça, c'est là où le film devient très complexe, je trouve, sur son parcours religieux. Je vais le résumer très vite, mais en gros, le personnage est visité par un oiseau, et cette scène est un peu la juxtaposition des deux extrêmes en fait, d'un parcours christique, puisque c'est à la fois une scène d'imprégnation et d'annonciation, de l'annonciation à Marie, de vraiment le divin qui descend, qui imprègne un être humain, et puis en même temps, c'est la scène de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection du Christ, où les apôtres sont visités par le Saint-Esprit. Il y a les langues de feu qui leur octroient le don des langues, et c'est un personnage qui d'emblée va être doté de toutes les langues de l'humanité, et qui donc va pouvoir parler à l'ensemble de l'humanité. Mais alors, pour te donner, il y a même des détails, c'est vraiment de l'ordre du détail, mais ça montre quand même que le film est très travaillé et très précis sur cette question. Moi, j'étais surpris la troisième fois de me rendre compte que le producteur de son émission de télé, qui est donc celui qui va permettre la parole messianique cathodique d'advenir dans le dernier temps, s'appelle Clé. Clé, ça veut dire l'argile. Mmh. Or, précisément, l'apôtre qui permet la propagation de la parole de Jésus, c'est Pierre. Il y a cette phrase dans l'évangile qui est « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Et que là, quelque part, non, c'est pas de la pierre, c'est de l'argile. Et d'ailleurs, l'espèce de segment trinitaire autour duquel la trinité autour de laquelle se construit le film est une trinité, en fin de compte, mouvante. Alors déjà, c'est pas tout à fait une trinité, c'est d'abord une dyade, puisque c'est le personnage d'Emily Blunt et de Josh O'Connor, et on leur répète qu'ils ne sont que deux et qu'ils ont toujours été deux. Et puis, ça va être une trinité mouvante entre le personnage de Colman Domingo, qui donc joue un espèce de metteur en scène qui va permettre de faire accoucher la vérité, et puis une figure d'alien, hein, qui va être aussi comme ça, une espèce de pôle autour duquel les deux personnages principaux vont s'organiser dans le dernier segment du film.
Et un détail auquel je pense simplement. Vas-y. Sur Clay, effectivement, argile, j'y avais pas pensé, c'est ouais. Qu'à la fin du film, lui aussi est un peu dirigé par Emily Blunt, et c'est, je trouve, le personnage qui a le plus de conscience d'être en train de manipuler, mais positivement manipuler, oui, qui n'arrive, oui, pas de se dire tiens, mais je vais te diriger vers la salle de contrôle, et je ne sais pas pourquoi je le fais.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'omniprésent et un peu déstabilisant au premier abord. C'est-à-dire que les personnages sont traversés par une espèce de pulsion, qui est une pulsion de la croyance, mais aussi quelque chose qui les dépasse. Il y a aussi un personnage qui est possédé. Alors ça, c'est aussi étonnant, c'est que le film, par moments, navigue vers quelque chose qui serait près de l'horreur. Le moment où elle se réveille dans le motel, elle passe le visage flou au premier plan net, il y a quelque chose d'assez étonnant, et à plusieurs endroits, le film va ménager comme ça, c'est presque une séquence de possession, quoi, au milieu du film. Et cette trame religieuse, je trouve qu'elle est assez passionnante, parce qu'on pourrait se dire quand même cette histoire de trinité, ce discours, alors notamment le personnage de la petite amie de Josh O'Connor est une ancienne nonne, on est sur un terrain qui est très chrétien, alors que bon, quand même, Spielberg est un cinéaste juif, donc il y aurait une forme d'étonnement ou peut-être même d'incohérence à cet endroit. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que précisément le film va casser, alors pour moi uniquement par la mise en scène. Je sais que certains disent que le film est très bavard, mais moi je trouve qu'il y a plein de choses qui ne passent uniquement que par la mise en scène, notamment tout ce qui se passe sur les communions télépathiques du personnage d'Emily Blunt. Puis il y a un détail très beau quand on voit le film, c'est la scène de la station service que j'aime un peu moins, mais même dans les scènes que j'aime un peu moins, il y a toujours 2-3 détails que je trouve magnifiques. C'est en fait, on voit dans le jeu de l'actrice qu'elle lit dans le regard de son conjoint qu'elle est sur le point, en fait, de la dénoncer et de vouloir la ramener dans l'hôpital. Et ça, ce n'est jamais formulé par le scénario, ça passe uniquement par le regard et le jeu d'Emily Blunt. Et en fait, bon, tout s'achemine vers une scène qui est une scène, moi je trouve extraordinaire, qui est une scène de reconstitution dans une maison où on va revenir dans le passé enfantin des personnages et accéder enfin pour la première fois de manière véritable au contact entre à la rencontre du troisième type, quoi, entre les enfants et les aliens, dans une scène qui évidemment dialogue avec tout le cinéma de Spielberg, puisque c'est à la fois évidemment rencontre du troisième type, c'est presque le contre-champ, c'est aussi la maison de l'intelligence artificielle à la fin, c'est aussi la chambre d'enfant de Ready Player One, etc. Enfin voilà, le film entretient tout un dialogue intertextuel avec l'œuvre de Spielberg, mais d'une certaine manière, c'est pas le principal. Et là, il y a tout un truc assez étonnant aussi sur la religion, sur la foi, c'est que, notamment, il y a une scène, moi, vraiment très troublante, la première fois où le personnage d'Emily Blunt arrive et tout d'un coup, il y a une figurante qui commence à se prosterner devant elle et à se signer, comme si c'était le Christ. Et en fait, ce que va nous raconter le film, c'est que d'une certaine manière, non, il n'y a pas de Christ, de la même manière qu'il n'y a pas de divin, mais qu'on est face à quelque chose de l'ordre de la science, hein, ou quelque chose en tout cas de l'inconnu, que seraient les extraterrestres. Ça passe notamment par un morphing, donc c'est-à-dire une image qui va en devenir une autre. Et cette image, c'est celle du cerf. Alors, le cerf qui est un symbole christique et qui devient, en fin de compte, un alien. Voilà. Et donc, il n'y a pas de divinité dans le film, mais il y aurait, en tout cas, une forme d'entité qui serait proche du divin par son degré d'empathie et de capacité à communiquer. Alors là, on voit quand même là où nous mène, en fin de compte, l'horizon, entre guillemets, religieux de Spielberg. Et ça arrive, et je te laisse la parole parce que je suis déjà très long, mais le film est vraiment très dense, et il y a plein de manières de le déplier. Ça nous arrive à une scène que moi je trouve prodigieuse, qui est la fin. Je trouve qu'il y a en même temps un pari complètement fou, puisque c'est une scène qui n'est pas très spectaculaire, qui est une scène qui nous révèle en fin de compte l'existence des extraterrestres par l'imagerie la plus identifiée et codifiée qui existe sur l'extraterrestre qui est Roswell, quoi, et la vision de l'alien qui est quelque chose qu'a décliné Spielberg, alors pas forcément dans E.T., un peu dans Rencontre du troisième type, mais surtout voilà, la fin de A.I. ou même de d'Indiana Jones 4, quoi. Donc il avait repris un petit peu cette image entre guillemets stéréotypée, et ce qui est très très fort, c'est que le film, là, je trouve, joue sur quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, et en même temps, toute la mise en scène ne cesse de montrer que cette croyance, il faut la coucher, il faut la mettre en scène, et que le film n'arrête pas de faire des allers-retours entre la régie, la scène, etc. Comment on parvient à cette espèce d'émotion, de révélation collective, tout en nuant alors un autre dialogue intertextuel, mais c'est marrant, on voit dans ce dernier film à quel point Spielberg en fait ne cesse de dialoguer avec d'autres cinéastes, que serait pour le coup Chaplin, quoi. C'est-à-dire que la fin, c'est la fin du dictateur. C'est la fin du dictateur dans le discours où Hinkle a été remplacé par le barbier, et le barbier lance un cri d'amour plutôt qu'un discours hitlérien, et ça finit sur « listen », voilà, sur l'écoute. Sauf qu'ici, le « listen », c'est presque la révélation en tant que telle, c'est-à-dire le film ne s'arrête pas en cours de discours, c'est que c'est la finalité de son discours, ça serait ce « listen », voilà, et ce cri d'empathie. Voilà, enfin, je trouve le film absolument passionnant. Alors, est-ce qu'il est moins incompli, peut-être, que les derniers Spielberg, que sont Fablemans et West Side Story? Je pense, oui, mais je trouve ça absolument passionnant.
Je suis sûr, merci d'avoir développé déjà tout, parce que je ne pourrais pas moi-même embrayer sur la thématique religieuse, et c'est vraiment très intéressant de t'écouter là-dessus, pour repartir simplement de mon avis sur le film. En effet, moi, le film me passionne, il me stimule beaucoup. Je pense en effet que c'est le moins bon Spielberg depuis, pour moi, le BGG. Toi, je sais que t'aimes un peu moins The Post. Le BGG, qui, je précise, est un film que j'aime bien, qui est un beau film sur,
moi aussi,
sur les rêves et leur matérialisation. Mais qui est quand même, voilà, un film très étonnant, et qui est peut-être un peu le, alors que voilà, Spielberg est âgé depuis un moment maintenant, le premier film tardif, je dirais, de Spielberg, dans le sens où après voilà, West Side Story, qui était un film comme ça un petit peu parfait, d'une certaine manière vraiment très contrôlé. Enfin, j'ai souvent dit que moi, ce que j'admirais chez Spielberg, c'était le côté sans effort en fait de sa mise en scène, alors qui est très complexe, sophistiqué, mais qui pourtant voilà me donne l'impression souvent d'être totalement naturel, ce qui est étonnant, alors que voilà d'autres cinéastes qui font des plans très compliqués, c'est tout de suite un peu lourd, un peu m'as-tu vu. Lui, il y a comme ça toujours une forme de rencontre un peu parfaite entre ce qui se joue et la mise en scène. Mais
je me permets juste, parce que c'est vraiment étonnant ce que tu dis, parce que j'ai pensé exactement la même chose quand j'ai vu le film pour la troisième fois. J'ai repensé une phrase de Michel Mourlet sur Raoul Walsh, et il dit: il filme comme il respire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des choses qui sont très sophistiquées, notamment dans des plans séquences, hein, le plan séquence dans la ferme où il longe la barrière, ouais, il prend la voiture, génial, ouais. Mais ça donne, enfin, on se dit, ce plan là réalisé par Sam Mendes ou Iñárritu, ça peserait 3 tonnes, quoi. Et lui, il réussit à faire complètement oublier cette espèce, en effet, de ballet extrêmement sophistiqué, mais en même temps qui n'est jamais m'as-tu vu. Enfin, je trouve ça très impressionnant quand on revoit le film.
Tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est que là, d'emblée, il y avait quelque chose qui résistait un peu davantage. Peut-être aussi, c'est cette entrée en matière, comme ça, un peu, on balaye ce qui est venu, voilà, un coup de pied sur la caméra, enfin, 3 coups de pied sur la caméra, même. Et voilà, le film avait une sorte de bizarrerie un peu nouvelle pour moi, chez Spielberg, ou en tout cas pas vu depuis longtemps. Il y a eu des films bizarres. Enfin, tu as parlé de Indiana Jones 4, c'est un film bizarre, par exemple.
Intelligence artificielle est un film bizarre.
Oui, aussi, non, c'est sûr, mais c'est vrai qu'après, voilà, je m'en rends compte, Fablemans, il y a des choses très bizarres sur la mer, etc. Mais donc là, plus globalement bizarre et un peu impur même, le côté, je le trouvais plus déphasé par rapport au reste de Hollywood. Ça fait longtemps que Spielberg évolue dans un peu un à côté d'Hollywood tout en étant son centre. Et néanmoins, là, il y avait quelque chose vraiment de très à côté qui m'a fait un peu penser en fait au cinéma de Shyamalan, pour plusieurs raisons en fait. Je pense thématiquement sur la religion, même le complotisme, enfin l'idée en fait du film qui est de partir de ce complot. Ah, il y a des enfants qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres, eh ben, on va faire le film de ça, et en plus c'est la représentation des extraterrestres, donc de Roswell, comme tu en as parlé, de prendre ça au sérieux, sur le symbolisme aussi, et puis même sur des choses comme ça qui seraient entre guillemets déceptives, enfin pas vraiment déceptives, mais sur là où il va placer les curseurs de ce qu'il y a d'impressionnant. Et par exemple, il y a quelque chose d'étonnant qui est que les images de SF les plus impressionnantes du film sont des images à la télévision, qui sont projetées à la télévision, ce qui est quelque chose qui en fait faisait Shyamalan dans Knock at the Cabin, où, qui était comme ça un film, un huis clos, avec à la télévision des images que je trouvais assez géniales.
Oui, même signe, de catastrophe. Scène d'anniversaire.
Même signe, en effet. Ouais. Signe avec lequel le film dialogue pas mal. Donc, Et ces deux cinéastes qui, je trouve, avec Spielberg avec ce film-là et Shyamalan avec peut-être toute sa filmographie, qui demandent un peu de travail aux spectateurs pour se mettre au niveau de leur candeur, de peut-être leur naïveté. C'est-à-dire que voilà, on peut reprocher à Spielberg une espèce de naïveté du discours de Disclosure Day sur l'empathie, etc. Mais je pense que c'est vraiment un cinéaste qui y croit tellement, ouais, et qui a une mise en scène qui va avec cette croyance, que ça vaut le coup de prendre la main du film parce que voilà, le voyage mérite. Alors, pour donner un peu de parole aux gens qui aiment moins le film, parce que je sais qu'il y en a aussi
au sein de la revue,
voilà, j'ai pu trouver un peu de grossièreté dans le scénario, notamment ces histoires de MacGuffin, des petits artefacts extraterrestres, avec par exemple un peu le film faisait un peu ce truc-là d'inventer un peu des nouvelles règles au fur et à mesure qui se déploient. Ou pour citer un exemple précis de choses que je trouve un peu mal faites, disons, c'est que voilà, à la fin, la séquence de la maison invisible, Emily Blunt utilise cet artefact et en fait il va se briser. C'est un peu, on savait pas que ça pouvait se briser, il va tomber en poussière, et en fait ça sert juste à ce que Jane puisse venir à la fin en sauveteuse avec le troisième, enfin voilà, des petits trucs comme ça où je sens un scénario qui me balade un petit peu, mais au fond qu'importe. Et la raison pour laquelle qu'importe, c'est que comme je l'ai déjà dit un petit peu, Spielberg a une foi absolue d'abord en la mise en scène. Et il faut redire un peu ce qu'est la mise en scène de Spielberg depuis son partenariat avec Janusz Kaminski, son chef opérateur. C'est vraiment une mise en scène qui prend en compte la lumière comme une nouvelle dimension en fait, de la mise en scène, et un point mais qui est hallucinant. Et il faut se rappeler aussi qu'est-ce que c'est voilà, dans le film par exemple, dès le début il y a des flares un peu partout, des sources de lumière à l'intérieur de l'image qui créent comme ça des rayures lumineuses dans l'image, donc on est déjà dans une impression d'OVNI, quoi. C'est-à-dire il y a des objets non identifiés un peu partout dans l'image qui, même si on est en train de regarder ce qui ressemble plutôt à un thriller nerveux, nous met déjà sur un mood extraterrestre, pardon pour l'utilisation de mood. Mais si on repense à The Fablemans, qu'est-ce que c'est la lumière d'abord pour Spielberg? C'est la lumière du projecteur. Ce qui me fait dire de façon un peu mathématique, puisque ce film parle la langue des mathématiques, que croire aux aliens pour Spielberg, ce qu'il nous demande un peu de faire avec ce film, c'est un peu la même chose que croire en le cinéma. Et lui continue vraiment à y croire, à cette capacité à révéler des choses par la mise en scène. Et il y a plein de moments où la lumière dans le film donc joue vraiment ce rôle discursif qu'on voit que chez lui. Je pense par exemple à la séquence où Jane découvre les images des aliens sur l'ordinateur, oui, et d'un coup il va y avoir un halo de lumière qui fait un rond sur son visage. Donc là, on pourrait encore aller vers le symbolisme religieux. Enfin, voilà, plein de moments comme ça très saisissants. Ou plus tard, quand Daniel est au motel, au téléphone, et qu'il raconte « Tout dépend de ma... y a plein de pans de ma vie que j'ai oublié à ce moment-là. » Donc on est dans un motel avec les rideaux fermés, et il y a de la lumière striée des voitures qui n'arrêtent pas de balayer le décor, et il y a vraiment cette sensation de ces images un peu floues derrière lui, que justement il n'arrive pas à faire le point sur ces images, qui racontent un peu ces souvenirs-là. Et il y aura plus tard dans le film un parallèle avec cette scène lorsque Emily Blunt est dans la maison reconstituée, et il y a de même un peu un éclairage qui vient de derrière la maison, un projecteur de cinéma, donc c'est un décor de cinéma, ça c'est le côté très réflexif, et qui va d'un coup justement l'éclairer, et ce qui va lui permettre de basculer un peu dans la scène de rêve. Donc moi, spectateur de ce film-là, je vois effectivement des choses, disons, plus bâtardes que dans les récents Spielberg, qui étaient plus fins, mais je suis effectivement sans cesse rattrapé par la splendeur du geste. Après, le côté bavard, que je le vois un petit peu, disons, par exemple, une scène que j'aimerais un peu moins, ce serait le dialogue entre Hugo et Scanlon dans la maison reconstituée, où là, c'est un peu un léger moment un peu ingrat du film, où on enchaîne deux séquences, celle-ci puis Jane au téléphone avec la bonne sœur, qui est le moment où Spielberg nous explique de façon différente pourquoi il fait le film, c'est-à-dire d'abord la question vraiment de le côté un peu politique naïf qu'on pourrait lui reprocher, c'est-à-dire que le méchant incarné par Colin Firth, qui cabotine un petit peu, reproche la sensiblerie du personnage d'Hugo, qui fait penser un petit peu aux attaques aujourd'hui orales des républicains trumpistes sur les démocrates. Quand la séquence suivante, Jane au téléphone avec la bonne sœur, et la bonne sœur qui lui explique « Ah, tu n'as pas perdu ta foi en Dieu, tu as perdu ta foi en les humains. » Donc c'est un peu un petit moment comme ça, un peu discursif, où elle-même, la mise en scène est un peu moins passionnante à ce moment-là. Néanmoins, c'est un peu les gages de Papy Spielberg, et ça participe à cette impression de film tardif que j'ai, parce que autour, ça reste principalement un feu d'artifice, je trouve.
Oui, et puis même, alors je ne suis pas totalement en désaccord avec ces deux scènes que tu trouves un peu moins fortes, mais il y a toujours des détails qui sont très beaux. Et il faut dire, là aussi, c'est étonnant, on en revient un peu à ce segment final, c'est une certaine façon l'économie sur laquelle reposent les effets spectaculaires dans le film. Par exemple, les scènes de possession, c'est juste un œil qui change de couleur. C'est littéralement ça dans le motel, et c'est un visage qui change de quelque part, qui affiche une autre contenance. Et c'est un peu pareil, là, par exemple, dans cette scène de confrontation. Moi, j'adore la fin avec le rocking chair, par exemple. En termes de tempo, c'est parfait. Pareil, dans la scène qui suit, il y a un jeu sur la serveuse, etc. Enfin, la façon... Il y a toujours, en fait, une idée scénique qui fait que les scènes sont plus passionnantes, plus élastiques qu'elles n'ont l'air. Et ce que tu dis sur la lumière est très vrai. J'aurais presque tendance à dire que ça a toujours été là. C'est-à-dire que la rencontre avec l'autre, au sens large, dont l'alien serait une espèce d'émanation un peu radicale, éternelle. Bon, c'était déjà le cas dans Rencontre du Troisième Type, c'est-à-dire que c'était moins une rencontre qui était sonore ou même une rencontre physique, c'était d'abord une rencontre avec la lumière, et ça c'est juste, mais alors ce que travaille le film d'un peu nouveau, alors nouveau oui non, parce qu'on a beaucoup fait le parallèle avec les films des années 2000, ce qui est en partie vrai, mais c'est vraiment cette chose aussi, cette obstruction de la lumière, quoi, c'est-à-dire ce jeu sur la vitre, notamment, je trouve ça très très fort dans la première fuite en voiture, où en fait Spielberg va ne filmer que depuis l'extérieur de la voiture, et donc jouer sur un jeu de reflets, de surimpression, où les personnages sont quelque part englués dans des reflets. On pense aussi un peu à la scène de Tom Cruise dans Minority Report, quand il fait défiler des profils criminels devant son espèce de télévision interface, et cette question de l'interface, voilà, ça c'est aussi intéressant, parce qu'on a reproché quelque chose d'un peu anachronique sur le rôle de la télé chez Steven Spielberg, puisque en fait ce que raconte quand même le film, s'il est encore une fois on veut être un peu caricatural, c'est que Spielberg croit davantage dans la télé qu'au Christ, quoi, d'une certaine façon, que c'est ça la finalité, sauf qu'en fait c'est pas tant la télé que l'écran comme interface entre soi et l'autre, et entre soi et le monde, pour aller de manière un peu plus comment dire, grandiloquente, et que ça va notamment passer dans le montage par des effets de miroir, encore une fois de lunettes, etc. Et même, tu vois, par exemple, la scène dont tu parles, que t'aimes un peu moins, sur le dialogue entre les deux figures opposées. Il y a tout un jeu dans le film sur le personnage de Scanlon qui perd ses lunettes, qui enlève son oreillette, qui l'empêche d'écouter. Et c'est un peu similaire aussi sur le personnage d'Hugo dans ce qu'il joue. Là, il enlève son oreillette pour pouvoir écouter, etc. Enfin, il y a des jeux comme ça scéniques, des jeux sur la construction des personnages, sur la construction des situations, qui est un peu omniprésent, qui font que le film a comme ça une espèce de densité. Alors, je terminerai sur un point. Sur cette question de la bizarrerie, parce que moi je me pose une question à un niveau personnel, je me rends compte que c'est déjà le cas d'Anne Spielberg, mais que c'est aussi le cas en fin de compte des films peut-être qui me passionnent le plus ces dernières années, c'est que c'est des films qui sont un peu bizarres au premier abord et qui sont pas forcément des films dont la rencontre, enfin c'est des films que j'adore, mais en fin de compte la rencontre se fait véritablement au deuxième ou troisième visionnage, parce que les films sont d'une densité et que surtout d'une certaine manière il faut appréhender leur rythme. Et moi, comme toi, la première fois, j'étais un peu désarçonné par le rythme et la bizarrerie. Et plus je revois le film et plus j'y pense, et plus quelque part je me fonds dans ce rythme. Et notamment ce rythme, il va jouer par exemple, ce que je disais un peu sur le versant religieux, il va jouer notamment sur des effets de rythmique. Par exemple, un autre élément sur la question de la trame religieuse, c'est dans cette scène de la chambre, qui est vraiment une scène, moi je suis aux larmes du début jusqu'à la fin, je trouve ça vraiment prodigieux. D'abord, il y a une logique trinitaire parce qu'il y a trois animaux qui apparaissent, et en fait, au moment où il y a un gros plan sur le cerf, il y a un quatrième animal qui vient et qui vient casser la logique 1-2-3. Et cette logique de 1-2-3, mémétiquement, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fin. Il y a une forme de séquençage comme ça sur le lancement des extraits. Et donc le film travaille une espèce de rythmique qui est étonnante, mais une rythmique qui s'inscrit quelque part dans sa logique formelle. Je vais donner un autre exemple qui est la scène la plus bizarre quand on découvre le film, c'est quand Emily Blunt essaye de casser son téléphone. C'est vraiment une scène curieuse. Elle demande à son compagnon à trois reprises d'écraser le téléphone. Donc à trois reprises, il faut trois fois pour que quelque part la voiture le casse. Et puis ensuite elle sort, elle va taper trois fois dessus. Elle va faire un saut à pieds joints exactement comme le lutteur dans le plan d'ouverture. Donc ça a l'air bizarre. Dit comme ça, ça a l'air bizarre quand elle le découvre, mais ça s'inscrit dans un cheminement formel général qui fait que le film est passionnant. Mais c'est quelque part, il faut suivre la logique et presque le langage, pour prendre des grands mots, qu'invente le film d'un point de vue formel, d'un point de vue de mise en scène. Et quand on s'y plonge, oui, le film est un peu vertigineux. Ce qui n'empêche en effet que peut y avoir potentiellement des réserves ou que... Alors je reviendrai quand même sur un point, parce que je pensais que tu irais sur ce terrain-là, sur l'évocation des réserves, qui est sur la fin, parce qu'il y a quand même un débat. Il faut le dire que moi je trouve ça incroyable, j'ai l'impression que c'est une personne sur deux. Je suis allé le voir avec trois personnes là en début de semaine, la moitié le voyait, la moitié le voyait pas. C'est sur le fait que dans la scène finale, on puisse voir l'évocation potentiellement d'images de la Shoah, ou en tout cas des images qui feraient penser à la libération des camps. Je pense qu'on peut tout à fait le voir, puisque de facto il y a la moitié des gens qui le voient. Je suis pas sûr que ça soit tout à fait conscient, ou du moins que ça soit complètement pris en charge par la mise en scène, mais en même temps ce sont des images qui peuvent faire penser à d'autres. Par exemple, j'ai un ami qui est un ancien collègue de Criticat, d'ailleurs Théo Charrière, qui me faisait remarquer que les plans où les corps sont disposés à la sortie du crash, en fait, renvoie à l'ouverture de The Post, qui était un plan sur la guerre du Vietnam. Et de la même façon, je sais que certains pensent à la sidération de la découverte du 11 septembre, etc., à des plans de crash d'avion aussi, voilà, qui sont des images qui ont parfois été assez marquantes. Mais voilà, le fait est qu'en effet, il y a quelque chose qui est... peut-être que je te passe la parole là-dessus, parce que je sais que c'est quelque chose, en tout cas, qui t'a...
Oui, c'est le moment où je laissais un peu de côté la naïveté. Enfin, disons, j'accompagnais pas totalement Spielberg dans sa naïveté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un plan où un alien rachitique est ramassé avec une pelle.
Ils sont tous rachitiques.
Oui, mais là spécialement. Et justement, le fait de les avoir fait rachitiques aussi. Est ramassé avec une pelle et on est en noir, c'est en noir et blanc, une archive de 1947. Et vraiment, effectivement, en voyant ce plan, en le découvrant, ça m'a fait penser à Nuit et Brouillard. Ouais. Et je me disais, tiens, cette manière. Parce que il y a quelque chose de double qui se joue dans la découverte des images à la fin. C'est d'abord le côté. Nous ne sommes plus seuls. D'ailleurs, je trouve elle est assez géniale. La deuxième présentatrice qui vole la vedette à Emily Blunt et qui a vraiment des phrases pour la situation, genre ça change totalement tout ce qu'on savait sur notre place sur l'univers. Enfin, je trouve qu'il y a des moments comme ça de réalisation, de science-fiction assez. Le sense of wonder qui est un peu excitant, mais c'est doublé avec ce que je vois est très troublant, une espèce d'émotion sur ce qu'on a infligé à ces personnes-là qui m'a fait penser...
Sauf que là, on leur inflige rien, c'est-à-dire ils sont les victimes d'un crash, mais on ne voit pas les sévices qu'auraient
commis potentiellement. Non, même si dans la tête du spectateur, on se les imagine, puisque la première fois, on a montré des images de torture. Enfin, quand Jane les a découvertes, c'était des images de torture, mais là...
une image qui est montrée un peu hors champ, mais j'entends qu'on puisse y penser, moi aussi ça m'a
travaillé. Et en plus, par ailleurs, potentiellement, on les a infligés, puisque les corps qu'on sort des décombres. Les crashs ont été sans doute causés par des bombardements.
Voilà, mais là, on entre dans un domaine.
Certes, mais en tout cas, l'image pure, il fait penser, il y aurait quelque chose de Spielberg comme ça, un peu candide, qui croit tellement aux extraterrestres, qui place son empathie du côté d'un réalisme un peu trop historique et qui est un petit peu gênant, sachant que ça va dans la foulée de ce que j'aime beaucoup avec cette scène, qui est que dans chaque image, je disais, c'était un peu les images les plus impressionnantes du film. Ce qui est génial dans ces images d'archives, je trouve, c'est qu'à chaque fois, c'est jamais des plans des aliens ou de leurs engins seuls. Il y a toujours un élément de réel dans les plans, c'est-à-dire le vaisseau spatial va être filmé depuis l'intérieur d'un cockpit du pilote d'avion. Quand on va voir un ovni traverser le ciel, on va aussi voir des lignes de téléphone à l'avant-plan. Donc, comme ça, on cherche un peu la réalité dans chaque plan. Et ça a fait que je l'ai cherché d'un côté, naturellement, d'un côté historique qui m'a un peu gêné. Après, je ne balayerai pas le film d'un revers de la main. Pour cette raison, mais je peux comprendre la gêne. Néanmoins, pour moi, le film travaille tellement de trucs différents aussi, même dans son discours qui peut être confus, mais qui est très, il est très joueur aussi. Enfin, je trouve que c'est difficile de voir le film et de le résumer à part l'appel à l'empathie, mais bon, à part le procès en candeur, on ne peut pas faire grand-chose face à ça. Je trouve que le film est suffisamment étrange et part dans tellement de directions qu'il est difficile de lui accoler un discours hyper clair, hyper appuyé.
À cet endroit, voilà. Ouais.
Et nous allons maintenant passer à Dry Diff d'Alexandre Kobryidze. Donc c'est le troisième film d'Alexandre Kobryidze, cinéaste géorgien, qu'on avait découvert en France en 2022 avec Sous le ciel de Koutaïssi, titre français touristique, un petit peu de What do we see when we look at the sky, qui était un titre un petit peu plus poétique, la traduction texto du géorgien, qui était un film qui m'avait totalement pris de court à l'époque, que j'attendais pas du tout et que j'avais beaucoup aimé, j'avais écrit dessus qui était un film tourné à la fois en numérique et en 16 mm. Ce que j'ignorais, que j'ai découvert ensuite, c'est que son premier long métrage, Let the Summer Never Come Again, avait été tourné avec un petit téléphone de 2008, un Sony Ericsson plus précisément. Et Dry Diff est un retour à ce format, à cette caméra iconoclaste. Donc c'est quand même assez marrant de se dire que sur trois longs métrages, Kobryidze en a tourné deux avec ce petit téléphone. Et donc avec ce téléphone minuscule et à l'image pixelisée, Kobryidze va filmer en gros la quête d'un père à la recherche de sa fille qui serait parti faire un reportage photographique sur les terrains de football amateurs de la Géorgie. Et c'est un film de 3 heures qui est très contemplatif, on peut utiliser le mot souvent utilisé depuis quelques années.
Oui, mais en même temps, de cette manière, ça se discute puisque les plans ne sont pas si longs que ça et tant dans la contemplation
que ça. Mais en fait, le film contemplatif, je pense que c'est un terme dont la définition peut être... juste qui appelle à contempler. La définition peut être très vaste. C'est pour ça que même directement en l'employant, j'ai eu un petit... Mais c'est ce qui arrive parfois à l'oral.
Ça se débat,
Et qui est, moi, un film que... Vraiment, j'adore. À un point, c'est-à-dire que je l'avais vu en septembre, que j'avais réussi à le voir en festival. Je ne pensais pas qu'il sortirait en salle déjà, parce que c'est vraiment un film assez radical par sa durée et sa texture. C'est-à-dire que s'il n'y avait que l'un ou que l'autre, on comprendrait qu'il puisse sortir. Mais là, les deux font que c'est compliqué à caser en salle. Donc, on peut dire de temps en temps bravo au distributeur de Norte de sortir un film pareil en salle. Et oui, c'est vraiment un film que j'adore, mais je vais te lancer d'abord sur le film. Toi, c'était ton premier...
Tu veux me lancer?
Oui, c'est traditionnel. Non, c'était ton premier Kobéridze,
tout à fait.
Josué.
Alors, tu m'en vantes mon émerveil depuis des mois, donc j'étais très impatient. Alors, j'aime bien le film, mais je l'aime moins que toi. Voilà, donc on va arriver aussi sur des nœuds, mais j'aimerais te laisser le temps aussi d'exprimer tout ce qui fait que le film te passionne. Alors, je trouve ça bien que tu aies d'emblée commencé à lier la question du dispositif plastique. Enfin, tu aurais presque deux dispositifs qui évidemment participent d'une même logique, que serait le dispositif plastique, c'est-à-dire tout filmé depuis un téléphone. Et ça, je pense qu'on peut le dire que d'emblée, on voit bien que ça va pas être une limitation, que le film va s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler un film qui travaillerait volontairement une image pauvre. C'est-à-dire que l'image est peut-être pauvre techniquement, mais elle est d'une richesse et d'une profondeur dans les textures. Et le film, vraiment et plastiquement, par moments, époustouflant. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont magnifiques. Mais on pourrait dire, alors, moi j'y pense, peut-être que ce que je préfère dans le film, commencer par là, ce serait le dernier temps où j'ai l'impression presque de voir une variation impressionniste sur Kiarostami, c'est-à-dire les plans vraiment de route désertique, ça m'a vraiment fait penser au Kiarostami, disons, de La vie continue, mais avec une forme, c'est-à-dire l'idée que les textures, les images bavent, et quand je dis bave, c'est vraiment que ça bave comme dans l'impressionnisme, comme ça bave chez Cézanne ou Matisse, quoi. Et donc il y a une forme de comme ça, de côté un peu éthéré, évaporé de l'image. Et alors, il me semble que le film va travailler ce côté éthéré et évaporé aussi dans le montage. Ce qui ne veut pas dire que le montage n'est pas travaillé, et je trouve que notamment dans la première partie du film, il y a tout un horizon sur... Alors, il y a un double cours assez rigolo, parce que le film a des points de fantaisie, notamment sur un point, je ne sais pas si tu voudras le révéler ou pas, donc je te le laisserai, mais il y a un argument fantaisiste, mais qui n'est pas quelque chose de plaqué, d'assez lourd, etc. Moi, j'ai eu un peu peur, et je ne pense pas que ça soit de l'ordre de la coquetterie, mais il y aurait une forme de fantaisie, par exemple, dans un cours dont on va voir deux explications, deux schémas qui sont immédiatement interrompus par une sonnerie, et un horizon sur le cercle, la ligne, dans
on
le dira, football.
On dirait un des bons débuts de cours, et en fait, à chaque fois, c'est la
fin
du cours.
Et à chaque fois, c'est la fin, et en plus, c'est un cours, aujourd'hui, je vous parlais de la ligne, et le personnage trace une ligne sur un tableau, et ça sonne, on parlera de la ligne la prochaine fois. Et il nous refait le coup sur le cercle. Notamment, il y a une scène qui est vraiment très bien, je trouve, qui est une scène dans un vieux stade où il y a des barreaux partout, etc. Il y a tout un jeu comme ça sur l'obstruction, sur des fenêtres entravées, etc. Et tout un jeu comme ça sur la couleur, sur la lumière qui est assez fort. Mais je dois dire que j'ai un peu une réserve sur... c'est-à-dire que si plastiquement le film me convainc complètement, j'ai une réserve sur le montage, au moins tant sur la durée, même si c'est lié. C'est-à-dire que je pense que là, on commence à arriver au point de désaccord. Le film travaille, à mon avis, quelque chose qui tient du flux, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais c'est-à-dire, c'est un flux d'images. C'est un flux d'images qui va aussi jouer sur un sentiment de perdition, d'errance, puisqu'au fur et à mesure, on voit d'ailleurs, ça c'est un peu un trope du cinéma hérité de la modernité, c'est pas un problème. C'est-à-dire, plus on s'enfonce dans une espèce de quête qui d'ailleurs n'est pas, et ça c'est pas du tout un problème, n'est pas très investi émotionnellement. C'est-à-dire, la situation n'est pas vécue comme un drame par le père qui est en train de chercher sa fille. À aucun moment, la question que la fille soit en danger, c'est pas tout à fait l'aventura non plus, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas dans une espèce d'angoisse métaphysique ou existentielle, mais le film, notamment par des petites ritournelles aussi de musique et par des logiques de boucle et de répétition dans le montage, va jouer quelque chose d'une enquête qui piétine, qui tourne en rond et qui en même temps s'enfonce dans quelque chose de plus éthéré, de plus en plus abstrait, y compris dans la partition en deux. Ça, je te laisserai en parler. En effet, c'est un truc un peu amusant, c'est que le film se coupe en deux, mais d'une certaine manière, c'est un peu artificiel et c'est presque une blague. Il y a une espèce de fou en tracte qui tient presque de la blague.
Je pourrais ne pas en parler, effectivement il y a un end of part one alors qu'on n'était pas au courant qu'il y avait une part one, et ensuite le film se relance plus ou moins de la même manière.
Exactement. Mais alors là où ça m'embête un petit peu, c'est que alors ça c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à mon avis par cette logique là de flux, alors qui va aussi s'accompagner de quelque chose, on sera pas forcément d'accord là-dessus, et je le dis pas forcément de manière négative, mais le film travaille quelque chose aussi de monocorde, c'est-à-dire que le film va dépassionner l'horizon un petit peu potentiellement lyrique ou emphatique que pourrait avoir un montage de ce type. C'est-à-dire, moi j'ai notamment pensé à deux cinéastes devant le film, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai pensé à Malick dans cette recherche comme ça d'images, de nature, d'animaux, etc., qui ouvre sur quelque chose, alors qui serait pas ici du sacré, mais qui serait de l'ordre du mystère quand même, hein, puisque d'ailleurs il est beaucoup question d'invisible. Et puis j'ai pensé à un cinéaste comme Godard, avec une différence de taille, c'est que les deux, alors déjà en termes d'intensité c'est complètement différent, mais les deux aussi travaillent une forme de lyrisme qui peut parfois être très puissant. Alors Malick, il va le travailler sur une note vraiment très continue de lyrisme qui rend la chose un peu étouffante dans ses derniers films. Je pense à tous les films comme Song to Song et compagnie.
Moi j'aime bien, mais c'est un sujet pour...
Oui, moi j'aime bien Net of Cups, bon, à débattre, mais bon, voilà, je trouve que ça manque un petit peu de... Mais j'ai d'ailleurs, j'ai une réserve là-dessus, du coup je la balance aussi là-dessus, mais... ça manque parfois un peu de relief. C'est-à-dire que ça manque un petit peu de décélération, etc., de pic, de creux. Et je suis un peu étonné, d'ailleurs, à ma grande surprise, sur qu'il y a beaucoup de plans marquants, mais je trouve qu'il y a assez peu de raccords marquants. Et au bout d'un moment, je trouve que la logique de flux, la manière dont les images s'amoncellent, travaillent ce principe d'errance et de perdition, mais finissent aussi un peu, désolé, hein, par me rouler un peu dessus. Et surtout, là où ça m'embête, et donc c'est quelque chose de différent, et c'est là que je voulais venir sur le monocorde, c'est que le film va travailler quelque chose d'un peu dépassionné, pas de confortable, mais en tout cas d'une espèce de ronron aussi un petit peu charmeur. Moi, ça ne me pose absolument pas problème. Mais là, d'un point de vue, je veux dire, en principe, quoi, que le film ne travaille pas quelque chose qui serait de l'ordre du lyrisme ou que sais-je, mais disons qu'il y a un côté comme ça de dilution aussi, de liquéfaction, quelque part aussi, du rythme, qui à un moment me pose question, c'est que je trouve que ça émousse ce qui devrait être des moments quand même un peu de sidération. Alors moi, il y a notamment deux plans. Alors, au final, c'est marrant d'ailleurs, parce que théoriquement, mon plan préféré du film n'est pas le plan que je préfère. Je vais m'expliquer en quoi. C'est-à-dire qu'il y a un plan que je trouve absolument vertigineux en principe, et il l'est aussi dans les faits, mais il y a quelque chose qui me bloque. C'est un plan au moment où la caméra, le téléphone zoom dans la couleur, et au fur et à mesure qu'elle zoome dans la couleur, la couleur se désature et devient noir et blanc, et en fait, on recule, et on est passé complètement à notre lieu, on est visiblement dans un espèce d'étang, dans une forêt. C'est vraiment une idée, c'est pas vraiment un raccord d'ailleurs, même si plus ou moins, mais en tout cas, c'est une idée.
C'est un raccord. Le raccord est fait en fait au moment du zoom le
par
plus
le pixel
proche.
Et le
zoom, c'est
zoom,
quasiment invisible.
C'est un peu vertigineux, mais en même temps, j'ai un problème, et j'en ai déjà parlé avec 2-3 personnes qui ont vu le film, c'est que je suis incapable de me souvenir le plan qui précède cette scène et le plan qui suit, et j'ai l'impression que cette scène, elle pourrait se situer 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tôt, 1 heure plus tard, 1 heure plus tôt, ça ne changerait rien. Et à l'arrivée, c'est un peu ça mon problème, c'est-à-dire, il y a une telle... Le film est sur une telle vitesse qui est en fait toujours un petit peu la même, que quelque part, ces pics sont émoussés, et que d'une certaine façon... son piétinement vient à diluer ce qui sont pour moi les grands pics du film. Et du coup, finalement, mon plan préféré du film est un autre, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du plan, du placement que je ne vois pas ailleurs, c'est le plan de l'âne, que je trouve vraiment super beau. Quand la caméra transite d'un surcadrage à l'autre, ça, je trouve ça magnifique. Il y en a d'autres qui sont très beaux, parce que quand je parle de liquéfaction, de choses un peu baveuses, ça va jouer notamment dans un plan de pare-brise ou des choses comme ça. Enfin, il y a un travail sur l'image qui se reconfigure à l'intérieur du plan qui est assez fabuleux, mais je dois dire qu'en fait, je suis beaucoup plus convaincu par le principe plastique du film que par son principe de montage, et qu'à l'arrivée, ce principe volontairement de redite, hein, finit quelque part par diluer et par amoindrir et par émousser ce que je préfère dedans.
Je pense que nos désaccords en fait rejoignent un peu aussi plus globalement ce qu'on attend chacun du cinéma. Moi, c'est un peu un film parfait pour moi, et d'une certaine manière, je m'attendais un peu à cette réserve de ta part. Moi,
sur le montage,
y a quelque chose, oui, sur cette idée de flux. Enfin, pour moi, il y a quelque chose vraiment d'assez mystérieux dans le film, dans sa durée, que je trouve parfaitement juste, qui est aussi lié au fait que j'avais du coup vu l'autre film de Kobéridze avec le dispositif filmé avec la même caméra, qui pour moi était un film un peu plus pénible, qui était déjà un film de ville, donc un peu moins impressionnant peut-être plastiquement que ce qu'il fait ici avec les différents paysages de Géorgie, mais qui en plus redoublait un petit peu le côté difficile à lire de l'image, avec une intrigue un peu confuse où il y avait une histoire de guerre qui rôdait, tout ça n'était pas très clair, tout ça s'annulait un peu, alors que là il y a une espèce de clarté absolue du récit qui est très très fin, hein, qui est très léger, qui reprend un peu vie à quelques moments précis du film, mais qui sinon nous abandonne, mais tout en sachant à peu près très bien où on est, qui fait que le pacte pour moi est parfaitement respecté entre le niveau de perdition recherché et le niveau d'ancrage romanesque. Juste pour repartir, mais je répondrai à tes réserves, je vais essayer en tout cas, au fil de mon intervention, du coup de génie pour moi, de plastique du film, c'est que c'est pas juste... qu'est-ce qu'il y a de génial en fait à tourner avec ce vieux téléphone de la fin des années 2000. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, c'est une image qui n'a jamais pensé pour être vue au-delà de sur cet appareil précisément, c'est-à-dire de faire... c'était fait pour filmer et puis pour montrer montrer les images comme ça sur le téléphone. Ouais. Donc c'est une image qui n'était jamais censée dépasser les 5 cm en gros de large. Donc il y a quelque chose tout de suite de très nouveau, de très singulier à avoir cette image sur grand écran. Mais même à partir d'un ordinateur, c'est déjà incongru. Et alors sur un écran de cinéma, c'est encore plus étonnant. Donc il y a quelque chose comme ça de jamais vu qui vraiment dépasse le côté... mini DV du grain numérique, qui est quelque chose que je peux bien aimer, mais là ça va vraiment au-delà dans la manière qu'a l'image de Bavé, qui est vraiment très singulière. Il me semble qu'il y avait eu quand même, mais je crois que c'était filmé avec un très mauvais appareil photo numérique, justement tu parlais de Godard, je crois dans Film Socialisme notamment, il y a un peu d'images tournées avec un appareil photo pourri qui sont extrêmement pixelisé.
Il y a un film entier que j'ai pas vu de Jean-Jacques Fitoussi au début des années 2000 qui a été filmé intégralement au téléphone. Ouais.
Mais là, il y a un deuxième niveau en plus qui fait que c'est très singulier, c'est qu'il a l'idée de mettre ce téléphone sur un trépied. Ouais. Et en fait, voir ces images fixes, qui pourtant ne sont jamais des images fixes, puisque en fait, la qualité fait que ça n'arrête pas de trembler, de bouger, ça fourmille. Évidemment, est-ce qui nous renvoie tout de suite au caractère pictural de l'image et à l'impressionnisme, à cette idée que ce qu'on voit va nous... On va avoir plutôt la sensation de ces paysages que vraiment une vision réelle, et que le film est plus beau dans cette ordre de cette sensation, ce qui fait que même dans la durée, en fait, il y a toujours des choses à voir, parce que ça nous met, mine de rien, dans un état de travail aussi. Je parlais de travail pour celui-là, il y a une autre forme de travail qui est qu'on doit un peu compléter les pixels manquants, quoi. Et qu'on a toujours, enfin pas on doit, mais naturellement notre cerveau le fait, puisque on voit des images et on essaye de comprendre ce dont il s'agit, et souvent c'est ce qui se joue aussi dans le zoom dont tu parlais, le moment où tu ne pourras plus vraiment voir du tout ce dont il s'agit. Et quand il y a le dézoom, on met très longtemps à comprendre qu'est-ce que c'est que cet endroit, sachant que c'est en plus très bizarre, puisque c'est une espèce de micro-flaque un arbre. Et en fait, avec la qualité...
Pas longtemps, ça, on met 2 secondes, mais ces 2 secondes sont vertigineuses.
Non, mais quand on recule, on met du temps à comprendre, parce qu'il y a une bizarrerie de l'image qui est parce qu'il n'y a pas que les pixels, il y a aussi les contrastes,
tout à fait,
les couleurs, où en fait la flaque est juste une trace blanche dans le plan avec la lumière du soleil. Donc déjà, outre le fait que plastiquement, je trouve ça vraiment hyper fort. Enfin, dès qu'il filme du brouillard, enfin, en fait, toutes les différentes textures vont apporter quelque chose de nouveau un peu à ce dispositif. Mais en plus, il y a ce travail du spectateur, mais qui est très très simple, quoi, très 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 humble, et qui m'a m'a emporté.
Pardon, je me permets de répondre là-dessus. Ce que tu dis sur le travail, je trouve ça intéressant, mais est-ce que c'est pas légèrement contradictoire? Tu vas probablement me répondre que non, et donc j'ai peut-être mal compris ton idée sur l'idée du mystère, parce que pour moi, dont tu parles du mystère, je suis d'accord, mais pour moi c'est lié intrinsèquement à ce dispositif, c'est-à-dire que l'image est pas, on pourrait dire c'est une image pauvre, lacunaire, mais en fait moi je vois moins une image lacunaire que l'idée qu'en fait il va filmer presque l'esprit du paysage que filmer le paysage dans sa netteté numérique, et que donc il va révéler quelque chose qui serait là à un niveau, là on entre dans quelque chose de phénoménologique à la Merleau-Ponty, mais on est aussi sur la question de la peinture, quoi. C'est quelque part que le paysage est révélé par ce choix plastique, etc. Et donc, d'une certaine façon, le mystère, c'est même les pixels baveux, etc. Et donc, on n'est pas forcément dans un travail de... Enfin, moi, je ne suis pas vraiment dans un travail de compléter les images que
je vois. Non, en fait, j'utilise travail, ce n'est pas un bon mot, mais c'est que, en tout cas, on est tout le temps actif en tant que spectateur, par l'activité de l'image même. Et ce que tu dis est très juste.
Oui, on est branché sur son fond mimo.
Ça va révéler quelque chose du paysage, c'est-à-dire qu'on va avoir accès par cette image singulière au sentiment du cinéaste sur ce qu'il filme, et ce qui va rejoindre un peu ce qu'il filme justement, c'est-à-dire qu'il va imposer d'une certaine manière cette intrigue avec une voix off. Moi, que je trouve... D'une manière générale, je trouve les voix off de Kobéridze dans le film précédent aussi sont géniales. Et j'avais déjà fait mon coming out voix off, je me souviens, dans un précédent, L'ombre d'un doute sur Victor Erice, que j'aime bien ça, mais ici je la trouve très, très belle aussi. Voilà, il va installer un peu son récit, qu'on doit décréter un peu, son récit même, qu'on doit un peu accepter. Et pour à partir de là, filmer tout ce qu'il aime en fait, c'est-à-dire des animaux, des terrains de foot, puisqu'il adore le foot, faire un décadrage pour aller rendre visite à un oncle qui raconte dans un petit moment comme ça de portrait documentaire qui va raconter une histoire sur un instituteur que je trouve assez génial. Et comme ça, il y a l'idée d'employer le cinéma pour révéler, pour mettre au jour ce que cette personne aime dans la vie et qui, moi, il y a vraiment un... Enfin, le film tend la main à un niveau que peu de films le font, c'est-à-dire pour vraiment partager cette impression du monde qui est celle du cinéaste. Et il y a cette idée comme ça d'un film, là je vais plus te répondre là-dessus, d'un film vraiment à habiter, quoi, à arpenter, parce que notre regard arpente l'image, tout comme les personnages arpentent ce pays et la diversité.
Et puis surtout, il y a un vide
de
quoi.
Ces paysages.
Il y a un vide. Moi, je veux dire, au-delà des terrains de football, en fait, il filme moins tant les terrains de football qu'il filme des cages. Et que précisément, les cages, c'est une fenêtre, football, c'est un cadre vide. C'est un cadre vide à remplir. Et il y a tout ce jeu sur l'absence. Comment ? Oui, il n'y a pas les filets. Il n'y a pas les filets, oui.
C'est le terrain de foot amateur aussi, ça va toujours avec l'idée de l'image. Et sur le travail, pour continuer sur ce qu'on ne voit pas, ça accompagne totalement cette idée saugrenue dont que tu évoquais tout à l'heure et que oui, je pense qu'on peut révéler, puisqu'on apprend ça au bout de 5 minutes du film, que c'est un film avec des personnages invisibles.
Il s'est dit comme ça, il n'y aura jamais d'explication.
Ah, dans ce film, il y a des personnages invisibles, et en effet, de temps en temps, on voit des personnes parler à du vide, enfin de temps en temps, à peu près tout le temps, puisque un des personnages principaux, le personnage principal secondaire, est invisible. Et donc, comme ça, c'est une invitation à un peu aller chercher des choses dans le monde. Et c'est vrai que sur ce côté flux, etc., moi, j'ai vraiment eu l'impression que comme j'arpentais le film, pour moi, il travaillait plutôt... On était effectivement dans l'ordre de la contemplation parce que je ressentais un petit peu ce que je peux ressentir devant des films de James Benning, par exemple, une espèce de liberté absolue de spectateur à m'emparer du film, à naviguer à l'intérieur. Et d'une certaine manière, l'exquipit du film me donnait raison, qui est un exquipit, je trouve, vraiment sublime. Un poil amoindri, j'ai trouvé, par les sous-titres français que les sous-titres anglais quand je l'avais vu la première fois. Donc, je ne vais pas révéler la phrase finale du film, mais que je trouve sublime et qui, pour moi, est totalement juste par rapport à tout ce que j'ai vécu auparavant dans le film, ce que le cinéaste a aimé filmer. Moi, j'ai une émotion vraiment immense, quoi.
Sur cette fin, du coup.
Sur cette fin, et même à plein d'autres moments du film, et quelque part, j'ai la clé à ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment un film idéal.
Mais en fait, je vois ce que tu veux dire sur arpenter, mais c'est intéressant ce que tu me dis sur Benning. Alors peut-être que tu penses à d'autres Benning que moi j'ai en tête, mais il y a quand même cette idée de Benning que tu vas parcourir le plan, tu vas parcourir une forme de durée, et que là on est sur autre chose, on est quand même sur un enchaînement, voire même, moi c'est ma réserve, un peu une addition, à certains moments un empilement, pas partout. Il y a des moments où je trouve que les séquences sont très structurées dans la manière où ça va être des raccords. En fait, plus le film s'avance et plus il s'enfonce aussi dans la Géorgie, je pense qu'il y a cette idée-là, plus il s'enfonce dans les couleurs et plus il s'enfonce dans une quête qui ne va jamais avoir d'idée, il y a un côté où justement ça devient plus qu'un truc un peu chatoyant. Et pour le coup, je n'ai pas l'impression qu'on navigue par ailleurs au sein d'un espace comme le ferait chez Benning, puisqu'il y a vraiment une addition de plans qui s'empilent et qui s'interpénètrent d'une certaine façon.
Mais pour moi, ça va avec le dispositif. Enfin, c'est vraiment l'idée aussi d'un film qui se désagrège. Enfin, l'espèce de la dernière heure qui devient une espèce d'abstraction un peu totale, où il y a ce côté un peu drôle aussi de la musique. Parce que faut dire aussi que la musique, quand elle est là, très souvent, prend toute la place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre son que la musique, donc il y a cette impression un petit peu de film muet à un certain moment, et elle est très répétitive. C'est la musique composée par son frère Gheorghi, effectivement dans la dernière partie, quand la musique apparaît, elle disparaît et elle reprend immédiatement, et il y a cette et ça s'accompagne de, on dirait qu'ils se sont enfoncés de plus en plus, qu'ils arrivent dans une forme de désert, etc. Et moi, je sens, disons, oui, je serais d'accord avec toi potentiellement sur l'idée du montage comme ça, un peu plus léger que, disons, la rigueur des plans eux-mêmes. Mais il y a, pour moi, ça travaille quelque chose de physique aussi, où je me désagrège peu à peu dans l'image, tout comme les personnages disparaissent un petit peu dans les plans, parce qu'il y a beaucoup de jeux de disparition aussi, de personnages qui s'éloignent jusqu'à ce que techniquement ils soient encore dans le plan, mais en fait ils ont disparu dans les pixels. Enfin, il y a quelque chose de très fantomatique comme ça. Et donc effectivement, il faut accepter un petit peu cette espèce de perdition dans l'image même, qui fait qu'effectivement c'est pas vraiment un film à la structure parfaitement évidente, et pourtant c'est aussi pour ça que je suis passé de j'aime le film à je l'adore.
Oui, oui.
Il y a vraiment quelque chose de mystérieux qui se passe chez moi, c'est que j'ai l'impression que pour moi la réserve principale qu'on pourrait avoir devant ce film là et c'est peut-être la tienne, c'est tiens, pourquoi ça durerait pas 5 heures puisque ça dure 3 heures. Et en fait, j'ai vraiment eu cette sensation, mais purement physique, que le film avait sa durée juste.
Ouais.
Et c'est très étonnant. Alors, quoi, pour moi, parce que c'est souvent un problème que je peux avoir sur ce type de film, qui effectivement sont des films qui souvent m'intéressent. Et là, ouais, comme pourquoi un poème doit-il être en 4 strophes ou en 5 strophes, quoi. Et là, il y a un truc un peu parfait, enfin pardon d'aller sur le terrain du cinéaste poète, c'est peut-être un peu grossier, mais
je ne peux pas vraiment t'apporter de réponse sur le côté du mystère. J'entends tout à fait ce que tu
veux
dire, mais ce qui est très étonnant, je trouve, dans notre débat, j'y pense, c'est qu'en fait on est quand même d'accord sur plein de choses, et il y a des choses qu'on a vues de manière différente. Là, par exemple, moi je me fais une remarque qui est, tu vois dans la dernière heure une forme de désagrégation, je peux le comprendre, même si le récit se reprend dans la dernière partie. Moi justement, la dernière heure est vraiment pas ce qui me largue le plus, même si larguer serait un mot un peu fort. C'est que justement, moi j'ai trouvé qu'à un moment dans la partie Kiarostami dont je te parle, moi surtout j'ai eu un retour de quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là du film, c'est du relief. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ça va être aussi pas seulement une espèce de paysage désertique, mais aussi des formes de montagnes, quoi, qui me font penser un peu à certaines collines, ou en tout cas certains reliefs qu'il y a, dans les films de Kiarostami. Et que justement, on sortait un petit peu de ce côté dilué. Donc tu vois, c'est intéressant le moment où tu vois de la désagrégation. Moi je vois le retour de ce qui me manque un petit peu, c'est-à-dire, voilà, il faut du creux et du pic pour que d'une certaine manière le film retrouve une vitesse qui sort un petit peu de ce côté un peu monotone, monocorde que je suis en train de un peu de définir. Mais je voudrais le définir encore une fois, parce que moi je pense que c'est quand même du ruban d'image, mais c'est pas un ruban d'image comme on se l'imagine, voilà, comme le seraient les films malikiens ou les films de montage qui viseraient quelque chose un peu de l'ordre de la montée en mayonnaise ou en chantilly ou que sais-je, et qui travaille en effet une musique qui est un peu plus singulière et particulière. Voilà, je pense qu'on se retrouve sur un certain nombre de points, et notamment la dimension plastique. Et que là, sur le montage, bon, il y a peut-être en effet, je ne sais pas si c'est un désaccord de goût, mais peut-être un désaccord d'oreille.
C'est le road trip aussi, d'une certaine manière, qui implique un petit peu cette forme de recommencement et de... mais oui, non, je pense que on en est là. En tout cas, allez voir Dry Leaf, qui sort le 8 juillet. Et merci beaucoup Josué pour cette émission.
Ben merci Marin, bonne vacances aussi. Géorgienne. Peut-être.
Bonnes vacances.
Mais c'est vrai que
c'est
vraiment les deux pôles de Criticat, quoi. Goberidze et Spielberg, c'est un peu nos deux.
Mais tout à fait, c'est bien, c'est l'émission qui résume un petit peu la DA, comme disent les jeunes. Merci beaucoup aussi à Lucas Monguet qui monte cet épisode, et on se retrouve à la rentrée a priori pour un nouvel épisode de L'ombre d'un doute.